Laudetur Jesus Christus.
Les États-Unis ont accueilli hier un premier groupe d'Afghans ayant travaillé pour eux ces dernières années en Afghanistan. Une opération destinée à les protéger des représailles des talibans qui poursuivent leur conquête du pays à la faveur du retrait américain. De nombreux pays font face à une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Le variant Delta suscite l'inquiétude. Reconfinement locaux en Chine, prolongation de l'état d'urgence au Japon et vaccination au Burundi, jusqu'à présent opposé à tout vaccin. Éclairage dans quelques instants. Au sommaire également, la réouverture en Libye de la route côtière reliant l'Est et l'Ouest du pays. Elle était fermée depuis 2 ans à cause de combats. Et puis dans notre dossier, nous nous rendrons à Marseille, dans le sud de la France, à la rencontre d'un couple qui a tout quitté pour aller vivre en cité et diriger l'antenne locale du Rocher, une association catholique d'éducation populaire au service des quartiers défavorisés. Reportage en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour. Une attaque au lance-roquettes a visé hier les bureaux des Nations Unies à Herat en Afghanistan. Cette grande ville de l'ouest du pays est actuellement le théâtre d'intenses combats entre les forces gouvernementales et les talibans qui étendent leur emprise sur le pays. C'est dans ce contexte que plus de 200 Afghans sont arrivés hier aux États-Unis, notamment des interprètes qui avaient travaillé avec l'armée américaine en Afghanistan. Après 2 décennies de guerre, les Américains en effet sont sur le point de quitter le pays. Ils commencent donc à tenir leurs promesses à l'égard des milliers de personnes qui les ont aidés et désormais menacées de représailles par les talibans. Le sort d'une majeure partie d'entre elles reste toutefois très incertain. À New York, Loïc Loury.
30 heures de voyage depuis Kaboul est le début d'une nouvelle vie, selon les mots de Joe Biden, pour 221 Afghans, des interprètes, des guides, des conducteurs de véhicules ainsi que leurs familles. La suite, ce sont des examens médicaux et des démarches administratives à conclure. Ils seront relogés chez des proches s'ils le peuvent, ou dans le cas contraire, par l'État fédéral et l'agence de l'ONU chargée des migrations. Au total, ils sont ainsi 700 à avoir obtenu un visa spécial pour avoir aidé les Américains, 2500 personnes en comptant leur famille, attendue aux États-Unis dans les prochaines semaines. Mais après 20 ans de guerre, le compte est loin d'être bon. 18 000 personnes de plus, sans parler de leurs proches, ont fait une demande de visa, la plupart bloquées dans les limbes de la bureaucratie, notamment au stade des procédures de sécurité. Une partie d'entre eux pourrait être mise à l'abri à l'étranger, dans des pays tiers, Koweït ou Qatar notamment, mais leur sort est loin d'être clair. D'autres, enfin, n'ont sans doute pas même pu faire la moindre demande, piégés par les récentes avancées des talibans à quelques semaines du départ définitif des Américains d'Afghanistan. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Les États-Unis ont sanctionné hier 2 hauts responsables de la police cubaine pour leur participation à la répression des récentes manifestations contre le gouvernement cubain. Le président américain Joe Biden a évoqué d'autres mesures, à moins d'un changement drastique à Cuba. Un ancien cardinal sur le banc de la justice américaine, Theodore McCarrick, âgé de 91 ans, a été convoqué devant un tribunal en septembre prochain. Il doit répondre de 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant de 14 ans, remontant aux années 70. Theodore McCarrick, archevêque de Washington de 2000 à 2006, a été renvoyé de l'état clérical en 2019. Le pape François lui avait retiré sa barrette cardinalis en 2018, une sanction extrêmement rare. Le pape prie pour les malades de la Covid-19 en Argentine. Il a adressé une lettre au mouvement argentin Entre Tiempo qui lui avait écrit indiquant réciter quotidiennement le chapelet à l'intention des personnes touchées par le coronavirus. L'Argentine fait face à de nouvelles contaminations et comme dans de nombreux pays, c'est le variant Delta qui suscite l'inquiétude. En Chine, 2 nouveaux territoires, la province du Fujian et la municipalité de Chongqing, présentent des foyers épidémiques. Au total, 55 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés dans le pays. Au Burundi, le gouvernement vient de changer sa position dans la lutte contre le coronavirus en acceptant finalement la vaccination. Les premiers vaccins seront fournis par la Banque mondiale, mais Bujumbura a annoncé son refus de signer tout engagement pour une prise en charge des effets secondaires éventuels. À Bujumbura, Aubin Nyunkuru.
Le comité de lutte contre la propagation du Covid-19 a annoncé avoir accepté une offre de la Banque mondiale de lui fournir des vaccins. Selon le vice-président du comité de riposte au Covid-19, Le gouvernement burundais va laisser la liberté à toute personne qui désire se faire vacciner. Mais le gouvernement burundais a annoncé le refus de signer tout engagement pour une prise en charge des effets secondaires éventuels de ces vaccins, comme cela est exigé par les firmes pharmaceutiques. Jusque-là, le gouvernement burundais avait affiché un refus catégorique à toutes sortes de vaccins, estimant que plus de 99% de personnes qui attrapent le coronavirus sont soignées et guérissent. Le Burundi et l'Érythrée restaient jusqu'ici les seuls pays africains à avoir résisté au vaccin contre le COVID-19. Le Burundi vient de rejoindre la Tanzanie sur la liste des anciens mauvais élèves en matière de vaccin contre la pandémie de coronavirus. Depuis Bujumbura, Aubin Nyonguru, Radio Vatican.
La Tunisie, en très grande difficulté face à une nouvelle vague de l'épidémie, elle reçut hier 1 million de doses de vaccins en provenance des États-Unis. L'Est et l'Ouest libyen, à nouveau reliés par la côte maritime. Cette route fermée depuis 2 ans en raison des combats a officiellement rouvert hier. Une nouvelle étape dans la mise en œuvre du cessez-le-feu du 23 octobre dernier dans ce pays ravagé par les guerres civiles depuis 10 ans. Tout sera fait pour garantir la sécurité des voyageurs, assure le comité militaire formé des deux camps rivaux d'Alphine Allaire.
Oui Hélène, un mois après la reprise du trafic sur son tronçon occidental, l'est de la route côtière peut désormais s'emprunter. C'était fin juin que le premier ministre de transition libyen Abdelhamid Debba inaugurait la réouverture de cette même route côté ouest. Il restait depuis des barrages sur la partie de la route qui traverse la zone contrôlée par les forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est. Cette route relie donc l'ouest de la Libye depuis sa frontière avec la Tunisie à l'est jusqu'en Égypte le long de la Méditerranée. Le tronçon entre les villes de Misrata à l'ouest et Sirte au centre, long de 300 km, avait été fermé au début de l'offensive menée par le maréchal Haftar d'avril 2019 à juin 2020 en vue de conquérir Tripoli en vain. La réouverture de cette route représente donc le cœur des négociations du comité 5 plus 5 formé dans la foulée de la signature du cessez-le-feu de l'ONU le 23 octobre dernier. Elle représente aussi un premier succès commun aux forces armées du pays, ouvrant la voie à leur réunification, même s'il faut encore faire partir les mercenaires étrangers et autres groupes armés qui seraient, Hélène, plus de 20 000 à sillonner la Libye.
Merci Delphine pour toutes ces précisions. Des combats sporadiques se poursuivent à Deraa, en Syrie, berceau du soulèvement contre le régime en 2011. Dans le même temps, des pourparlers ont été entamés entre les autorités et les anciens rebelles pour tenter de rétablir le calme dans cette province secouée par de violents affrontements ces dernières 48 heures. On fait le point avec Paul Khalife.
Sous l'impulsion de la Russie, des pourparlers se déroulent dans le stade de la ville de Deraa entre des représentants du gouvernement syrien et d'anciens rebelles pour essayer de mettre un terme aux violents combats qui ont fait 28 morts, dont 11 civils. Malgré des heures de discussion, les négociateurs n'étaient pas encore parvenus à s'entendre vendredi soir. Le désaccord porte essentiellement sur le principe de la déportation d'anciens rebelles vers le nord syrien qui échappent au contrôle de Damas. Les ex-insurgés concernés par le bannissement ont refusé cette mesure exigée par les autorités syriennes, mais les pourparlers continuent malgré ces divergences. L'intensité des combats a nettement baissé ce vendredi après une journée marquée par la progression des anciens rebelles qui ont pris 18 barrages et positions de l'armée syrienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tirs sporadiques d'armes automatiques et d'artillerie se sont produits dans la ville de Deraa et plusieurs localités de la province éponyme vendredi. En attendant la fin des pourparlers, l'armée syrienne a acheminé d'importants renforts, dont des blindés, tandis que les anciens rebelles ont procédé au renforcement de leurs positions. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, sachez que ce matin à 11h seront célébrées les funérailles du cardinal Vanoy en la basilique Saint-Pierre. La cérémonie sera présidée par le cardinal Leonardo Sandri, vice-doyen du Collège des cardinaux. Dans un message de condoléances, le pape François avait fait part de sa proximité aux proches du cardinal français, doyen du Collège cardinalis, décédé à l'âge de 98 ans, saluant un frère qui a servi le Seigneur et l'Église avec un grand dévouement. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. Ils ont tout quitté pour aller vivre en cité il y a 3 ans. Camille et Geoffroy sont partis avec leurs 3 enfants à Campagne-l'Évêque, un ensemble HLM situé dans les quartiers nord de Marseille. Raison de ce déménagement peu ordinaire, ils sont partis diriger l'antenne marseillaise du Rocher, association catholique d'éducation populaire au service des quartiers défavorisés. Pour eux, c'est une nouvelle vie au cœur de cette cité à majorité issue de l'immigration maghrébine et comorienne, dans laquelle seul un quart des habitants ont un travail. Une expérience de la mission dans son propre pays, motivée entre autres par une volonté de servir la France et l'Église aux périphéries. Et comme un écho aux appels du Saint-Père, la découverte de l'amitié et de la fraternité derrière la crise sociale et identitaire de ces cités. Delphine Allaire s'est rendue sur place, au Rocher, installé dans les quartiers nord de Marseille, à la rencontre du couple responsable de l'antenne et des habitués de l'association Reportage.
Une trentaine de jeunes adolescents, enfants et mères de famille sur la piste de danse improvisée. C'est par un karaoké bon enfant et entraînant qu'on célèbre la venue de l'été au Rocher, qui a entre autres dispensé chaque semaine soutien scolaire et cours de français durant l'année écoulée. Parmi ses habitués, Fatia, algérienne de 36 ans, arrivée en France avec mari et bébé il y a 2 ans, elle s'est accrochée au Rocher comme une porte d'entrée pour s'intégrer.
Une voisine m'a dit, voilà, il y a une association qui fait les cours de français gratuits. J'ai trouvé impeccable. J'ai raté pas l'occasion. Je me suis bien améliorée. J'ai osé de parler avec les gens. Je suis musulmane. Ça me convient. Pour moi, connaître l'autre, ça veut dire connaître moi-même au mieux. Si je peux faire une association, une filiale comme ça, en notre pays natal, je le fais. Le Rocher, il m'a donné la possibilité de découvrir la France comme société, comment les gens ils s'habillent, comment ils mangent. Le Rocher, il m'a ouvert les portes sur le vrai France.
L'intégration à la vie de la cité, défi qui se pose en d'autres termes pour les jeunes qui ont toujours grandi à l'abri des tours ocre de ces quartiers nord. Pour ceux qui fréquentent l'association, elle est une bouée de secours scolaire, sociale et familiale. Ayman, bientôt 16 ans, redouble sa seconde, nourrit quelques ambitions professionnelles qu'il sait indissociables de sa venue au Rocher qu'il côtoie depuis le CE1, soit presque 10 ans.
J'avais des difficultés à l'école, ils m'ont proposé de l'aide pour faire les devoirs. Et c'est une deuxième famille parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont fait sortir du quartier en faisant des camping, je pars en vacances, le samedi je reste pas chez moi, ils ont de l'hospitalité. Je voudrais faire infirmier et c'est pour ça que le Rocher va m'aider pour les devoirs, pour les inscriptions. On sent l'aise ici, c'est vraiment beau, c'est très très beau. C'est comme notre exemple en fait. Même quand je serai papa, s'il faut, j'amènerai mes enfants ici.
Exemple, modèle, le dévouement de Camille et Geoffroy, la trentaine, jeune couple à l'antenne marseillaise depuis 3 ans, fait l'unanimité parmi les bénéficiaires du Rocher. Et pour cause, avec leurs 3 enfants, ils ont fait le choix radical de l'humanité en quartier populaire, une expérience loin d'être anodine pour leur vie de foi et de famille.
On a quitté un appartement parisien pour vivre dans les quartiers nord et dans une cité des quartiers nord de Marseille. Pour nous, pour notre couple et notre famille, on en tire un vrai endurcissement du noyau familial. C'est-à-dire que vraiment, on a vécu une expérience forte qui nous a énormément soudés à 2 et donc à 5, puisqu'on a 3 enfants. On a une espèce de joie permanente, en fait, qui est là par la rencontre, par la vie, au contact des personnes pauvres qui nous entourent.
3 ans d'immersion parmi les 3000 habitants des 800 logements de la cité Campagne-l'Évêque ne laissent pas indemne sur le regard posé sur la société et certains débats parfois bien politisés.
On est arrivé avec la vision macro des cités, donc l'idée d'un espèce d'immense bazar, violent, triste. Le Rocher nous a complètement fait changer de regard. On est passé dans une vision micro où c'est une somme d'individualité et donc c'est plus juste un gros bazar. C'est telle famille, telle personne âgée. On vient voir ce qu'il y a de beau en chacun et donc c'est la somme de beauté de chacun. Ensuite, évidemment, il y a des défis. Il y a un défi d'isolement. Chacun vit cloîtré chez lui. Il y a une méfiance, c'est-à-dire que chacun se craint. C'est notamment lié au réseau qui est assez présent sur le quartier, au réseau de drogue. On n'avait pas nécessairement beaucoup d'amis musulmans avant. On est vraiment venu rencontrer chaque musulman dans ce qu'il vit. La clé, c'est la rencontre parce qu'aujourd'hui, on a des amitiés et des liens très forts avec des gens avec qui on ne partage a priori absolument ni la même culture ni la même religion.
L'esprit fratelli tutti ici est bien en vie. La fraternité et l'amitié se vivent de la plus simple et concrète des manières, au détour de rire, sourire et main tendue. Ne pas attendre de savoir qui est notre prochain, mais se faire prochain de l'autre, semble être la méthode adoptée.
Le reportage de Delphine Allaire dans les quartiers nord de Marseille à la rencontre de l'association catholique Le Rocher. C'était ce matin le dossier de Radio Vatican, un dossier que vous pouvez retrouver sur notre site internet vaticannews.va. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée. À plus tard. Au revoir.